Expédition Taxi Maboul de Thomas Chesson et Yves Nelly.
Expédition Taxi Maboul de Thomas Chesson et Yves Nelly.
Un feuilleton radiophonique en 10 épisodes.
9e épisode.
La petite troupe avait débarqué à l'aéroport de Dakar au cœur de l'été 1960, alors que les colonies françaises d'Afrique noire s'apprêtaient à célébrer leur indépendance. 4 jeunes gens qui posaient le pied en Afrique pour la première fois, enthousiastes et pleins d'appréhension. Quelques pas de rumba sur le tarmac brûlant et ils s'étaient mis à chanter à pleine voix. Indépendance, cha-cha.
Tu es un bon petit. Tu as pris la bonne décision. Kousseri, tu es sûr? La tombe de Reben Yobé. Ne bouge pas. Papa vient te chercher. Non, pas ton papa. Je viens te chercher. Tiens-toi à l'écart. Ne bouge pas. Ahmed, tu sonnes le tocsin. On monte une opération au Cameroun.
Comment ça, abattu? Tous morts? Le fils de papa était à bord, bougre de connard. Tu peux te cacher où tu veux, petite merde. Je vais t'écorcher moi-même. Je vais confectionner un sautoir avec tes couilles. Oui, je comprends. Je comprends, le ministre s'inquiète. Il voudrait des nouvelles de son fils. Tu peux lui dire d'aller se faire foutre, ministre, avec les compliments de Maurice. Tu m'as bien entendu. Allez vous faire foutre, monsieur le ministre, avec les compliments du colonel. Et pour son fils, t'as qu'à lui dire qu'il a été bouffé par les crocodiles ou les hyènes. T'es un grand garçon, je te laisse choisir.
Malgré ma blessure, je fis le tour de l'aéroplane et parlai à chacun. Ils déclarèrent tous qu'ils étaient indemnes et nous nous rassemblâmes loin devant l'appareil en flammes. Le coucou brûlait très lentement. C'était un appareil très résistant et il ne s'enflamma pas complètement avant que tout le monde fût à bonne distance. C'est alors que nous nous aperçûmes que Denise était manquante. Patrice expliqua qu'il avait fait sortir Denise de l'avion en défonçant un hublot. Il était sorti le premier, l'avait ensuite aidé, selon les meilleures traditions de la galanterie. Mais le pauvre garçon était en état de choc. Ce qu'il racontait n'avait aucun sens. C'est à peine s'il pouvait marcher, je l'imaginais mal défoncer un hublot. Il y eut 4 petites détonations signifiant certainement l'explosion de quelques munitions, puis une détonation légèrement plus forte qui me fit réaliser qu'il restait sans doute une bouteille non débouchée de Gin Gordon's. J'écoutais pour entendre de nouvelles explosions, mais il n'y en eut pas. Suzanne poussa un cri. Nous tournâmes la tête vers elle, puis levâmes tous les yeux en suivant son regard pour découvrir le corps de Denise, très haut perché dans les arbres, empalé de part en part sur une branche. Après l'écrasement ou l'incendie d'un avion, il est d'usage de boire une once de bourbon ou deux, mais nous n'en avions pas. Il était temps de quitter la scène de l'accident.
Papa.
Papa.
Si tu peux tenir le coup, je le peux.
Si tu peux tenir le coup, je le peux.
Mais c'est dur.
Mais c'est vrai que c'est dur. Je lui serrai la main de ma main invalide et me dirigeai vers Suzanne pour la soutenir. Il fallait partir.
Il gémit. Il est mal en point. Ne pas toucher à l'éclat de métal, sinon c'est l'hémorragie assurée. Il perd connaissance. Un peu de sang coule dans sa barbe. Moumier et ses deux compagnons me parlent. Je n'entends pas. Partir. Il faut partir. Ils ouvrent la marche. Patrice ne peut détacher son regard du corps de Denise qui gît au-dessus de nos têtes. Suzanne le soutient. Il a du mal à marcher. Écrasé par la douleur, la honte et le chagrin. Julien les suit, l'œil vitreux. Ils abandonnent derrière eux Denise, tuée sur le coup. Je hisse Hemingway sur mes épaules. Il est lourd et inerte. Je titube. Je les suis. Ils me distancent. Moumier nous guide à travers la forêt. Nous rejoignons un sentier étroit. Je me laisse choir sur le sol. L'écrivain gémit. Il crache du sang. Je palpe encore son abdomen. Foie perforé. La colonne vertébrale probablement touchée. Le diagnostic est sommaire. Son état est alarmant. Je crie, j'appelle. Impensable de le transporter plus loin. Moumier revient vers moi. Il me parle, je ne l'entends pas.
Je l'ai guidé jusqu'à une mission catholique tenue par des bonnes sœurs.
Ça te plaît de te donner le beau rôle?
C'est de la pudeur, Ixo.
J'appelle ça de la vantardise.
Je vais pas étaler mes mots et mes blessures au fil des pages. De la pudeur.
De la vantardise.
T'as resté sourd après l'accident, c'est ça? C'est pour ça que tu m'emmerdes? C'est pour ça que tu m'interromps à tout bout de champ? Peut-être qu'il faut que je vérifie ce que tu tapes. Peut-être que tu tapes n'importe quoi depuis 5 jours et 5 nuits. Et remets-toi au boulot, Ixo. Avant que je ne te remplace par la nonne au gros cul.
Parle tant que tu veux. Je ne t'entends pas.
Julien s'enferma seul dans la petite chapelle de la mission. Bouleversé par la violence de l'accident, il avait envie de tout saccager. Il s'effondra. Il priait. Il se vidait, terrassé par la dysenterie.
Mais tout le monde s'en fout de la crise mystique de Julien. Et en plus, c'est faux. Il roupille, à côté. Julien roupillait dans la chambre voisine, hanté par des rêves érotiques dont Suzanne était la protagoniste principale. Mmh. Si ça se trouve, c'est lui qui nous a balancé au colonel. Sa crise mystique, c'est juste sa névrose qui décompense.
La mission abritait un médecin africain qui était très cordial, profondément ému, mais si énervé qu'il en oublia qu'il devait me prodiguer quelques premiers soins. Il désirait s'occuper de mes côtes, les bander. Cela aurait certainement été une expérience intéressante pour ce noble médecin, mais je n'approuvais pas cette intervention.
C'est de moi que tu parles?
Cet Africain, assez noble, pour lequel je me pris incidemment d'une affection peut-être durable, me tondit ensuite le pubis très habilement avec une paire de ciseaux. J'ignore s'il me fit des découpes tribales ou si la tonte fut purement fonctionnelle. Il vérifia la qualité du sang qui coulait des 5 orifices traditionnels de mon corps et annonça très aimablement que j'étais en mesure de reprendre la route.
Papa, tu vas bien?
Ne m'appelle pas papa. Tu te crois dans un de mes romans? Je veux du gin. C'est l'antiseptique souverain de notre époque. La pénicilline jouit d'une popularité toute provisoire. Elle ne peut avoir qu'une valeur très passagère. Le mérite du produit de la compagnie Gordon est reconnu, et l'on peut compter sur lui pour guérir, apaiser et cautériser toutes les blessures internes et externes. Il y a un chuintement constant qui va de mon crâne à mon oreille gauche. Tu veux pas regarder? Je me demande s'il n'y a pas un petit écoulement de matière grise.
M'étonnerait qu'il te reste beaucoup de matière grise là-dedans. Les murs cholés de blanc, verdis par les attaques de la végétation exubérante, quelques bâtiments incongrus posés au cœur de la forêt camerounaise, la chapelle, le gros corps nu d'Hemingway allongé sur l'autel. Je discute avec Moumier. Comment enlever l'éclat de métal qui lui traverse le corps? Il ne veut pas le faire. Il considère le vieil homme perdu et ne veut pas lui donner le coup de grâce. Les bonnes sœurs circulent, muettes. Suzanne et Patrice se réconfortent l'un l'autre. Julien, atone, observe. Hors du temps, hors du monde. Faire bouillir de l'eau, stériliser des instruments de fortune, écarteler la chair meurtrie, arracher le métal. Julien m'assiste et il se sent mal. Il tombe à genoux, se met à prier. Rétrograde. J'incise. Le sang coule. Il ne s'arrête pas de couler. Ernest, notre vieux papa.
Comment je vais le finir, ce livre, mon petit Xo? Va me chercher du gin.
Non.
Au moins une petite bière.
Tu devrais boire ton bouillon pour reprendre des forces.
J'ai pas besoin de reprendre des forces. Je vais mourir.
Ne sois pas aussi mélodramatique. Papa. Toi aussi, tu te crois dans un de tes romans?
Je suis dans un de mes romans. T'aurais dû m'empêcher de l'écrire.
J'ai essayé.
Je sais. Je veux écrire, c'est plus fort que moi. Et j'écris toujours les mêmes choses. T'es un gars épatant, Ixo. Ne fais pas attention à moi. Et Ixo, regardez le visage bien connu de l'écrivain. Son visage à peine fripé par la boisson, à peine fripé par l'âge. Et comme il le regardait et voyait son sourire agréable et célèbre, il vit de nouveau passer la mort. Cette fois, ce ne fut pas en rafale, un souffle pareil à une bouffée de vent qui fait vaciller puis monter la flamme d'une chandelle. C'était donc ainsi que l'on mourait, en chuchotement imperceptible.
Tu l'as déjà écrit, ça ?
Ouais, plus ou moins. Tu sais pas prendre en sténo, par hasard ?
La machine, ça va pas ?
Le bruit me fait mal à la tête.
J'ai jamais appris la sténo.
Bon, ça fait rien. Je voudrais un gin. Ou whisky soda, à la rigueur. Nous nous mîmes finalement au lit. Au cours de la nuit, j'entendis une hyène hurler à plusieurs reprises. Et je me demandais si elle était attirée par l'odeur de ma chair pourrissante. Je souffrais beaucoup de mes côtes cassées et ne dormis pas bien. Le hurlement de l'animal me rassurait et me donnait l'impression d'être revenu au bon vieux temps de la savane de Kimana.
Moumier veut quitter la mission, craint pour sa sécurité. Mais il ne veut pas abandonner Ernest. Je refuse. Intransportable. Je suis catégorique. Je suis médecin. Moumier aussi est médecin. De médecin à médecin, intransportable. Nous sommes en sécurité ici. Tout le monde nous croit mort. La TSF annonce la mort du grand écrivain dans un accident d'aéroplane. L'appareil entièrement détruit par les flammes. Papa se délecte de la nouvelle. Il joue avec la mort. Il la tient à proche distance. Ça l'obsède et le fascine. Jour et nuit, il dicte. Je tape, il dicte. Son récit patine. Sans doute, il lui manque une bonne histoire d'amour. Denise morte laisse un Patrice et une Suzanne en berne. Julien passe ses journées dans la chapelle. Et moi, je tape.
J'aimerais lire toutes mes nécrologies. Les descriptions de mes habitudes et de mon caractère. Et les circonstances dans lesquelles ma mort est survenue. Il y en a qui feront preuve de grande imagination. Faudra que j'en sois digne. Toi aussi, Ixo.
Promis.
D'autres seront plus convenus. Elles insisteront sur le fait que j'ai toute ma vie recherché la mort.
C'est pas vrai ?
Si c'était le cas, je ferais preuve d'une très grande inefficacité. C'est une chose que d'être près de la mort, de savoir plus ou moins ce qu'elle est. Et c'en est une autre que de la rechercher. C'est la chose la plus facile à trouver que je connaisse.
Tu devrais penser à des choses plus agréables.
Tu sais ce qui serait agréable. Si au lieu d'avoir un liquide inconnu suintant de mon abdomen, je me trouvais au Kenya en train de chasser le lion, pieds nus, seul, la nuit.
Tu veux plus écrire ?
À écrire quoi ? Il se passe plus rien.
Ils arrivent, l'armée camerounaise.
Félix, il doit fuir. Ils doivent fuir. Je les presse. Je resterai avec papa. Je retarderai les soldats camerounais. Julien ne veut pas quitter la chapelle. Il dit qu'il ne veut pas me laisser, qu'il ne veut pas abandonner papa. Il a simplement peur. Il n'en peut plus. Félix Moumier et Suzanne l'empoignent. Ils l'extirpent de la chapelle. Julien pleure et hurle. Patrice boitille derrière eux. Ils courent. Ils disparaissent, avalés par la forêt équatoriale. Bruit de bottes dans les couloirs. Mon tour d'avoir peur. Je me terre dans la chapelle. Je me cache. Disparais sous un banc.
Ah, colonel R, je présume.
Appelez-moi Maurice. Tout le monde vous croit mort, les Crévaillons. Mais je vois que c'est tout comme. Une corvée de moins pour tout le monde. On a retrouvé le corps de la fille à Yamehogo. Où sont les autres ? Le fils à papa et Moumier.
Je les ai pas vus. Peut-être sont-ils à Douala. Pas possible de boire un bon whisky par ici.
Moumier ne boit pas.
Ils ont aussi du Coca-Cola.
Bon, vous deux, fouillez la mission. Et n'hésitez pas à bousculer un peu les bonnes sœurs. Je veux m'oublier, et le fils à papa.
Je souffrais beaucoup de mes côtes cassées et ne dormis pas bien. Le hurlement de l'animal me rassurait et me donnait l'impression d'être revenu au bon vieux temps de la savane de Kimana. Je n'y connais pas grand-chose, mais ça m'a pas l'air bien fameux. C'est Moumier qui vous a charcuté comme ça? Paralysé? Vos blessures suppurent, vous voulez crever ici ou vous préférez que je vous aide?
Je t'emmerde, Maurice.
Dans ce cas, c'est moi qui finirai ton bouquin. Tu seras pas là pour voir la fin de l'histoire. Tu veux que je te dise comment ça se termine? Le petit Fanon, mon martiniquais préféré. C'est toi qui joues les dactylos? Tu lui vides son bassin aussi? Pourquoi tu penses qu'ils t'ont laissé derrière eux? Parce que t'es le plus noir? Tu vas être un martiniquais bien obéissant et tu vas gentiment me dire où ils sont pour sauver ta peau et celle du vieux. Oh pardon, j'ai appuyé où ça fait mal.
On vous bottera le cul hors d'Afrique. Je botterai le cul de tous les colonels merdeux hors d'Afrique.
Je ne rêve que de ça, quitter ce continent pourri. Le peuple noir a soif d'égalité et de liberté, grand bien lui fasse. Cela nous débarrasse d'un fardeau beaucoup trop lourd pour nos épaules. Nous échappons au pire. Au Gabon, tu t'imagines? Léon Mba voulait opter pour le statut du département français. Les Gabonais nous seraient restés attachés comme des pierres au cou d'un nageur. Heureusement que la plupart de tes amis africains ont écouté le grand Charles et ont choisi l'indépendance.
Nous ne voulons pas de ce simulacre d'indépendance. C'est le bal des présidents fantoches. Nous voulons une Afrique unie et forte. Nous la construirons, les armes à la main.
Une Afrique unie et forte? C'est beau à en pleurer. Tu parles du Congo de Lumumba ou de la Fédération du Mali? Attends, je te raconte la fin. Avant la fin du mois d'août, les Sénégalais procéderont à l'arrestation du chef d'état-major de l'armée de la Fédération du Mali, le colonel Abdoulaye Soumaré. Bien sûr, on aidera un peu. Un officier français de la gendarmerie interviendra pour graisser les rouages. Notre cher Senghor justifiera ainsi l'arrestation. Poussé par une ambition folle, Modibo Keïta vient de tenter un coup de force. Il a mobilisé les troupes de la Fédération du Mali contre le peuple du Sénégal. L'heure est grave. Il s'agit de défendre notre indépendance. Car ce que l'on veut, c'est vous coloniser, vous réduire en esclavage. Je suis prêt à mourir pour que vive le Sénégal, ajoutera-t-il.
Prose minable, colonel.
Ouais, attendez, je continue. Un cortège de voitures, escorté par des éléments de la gendarmerie sénégalaise, se dirigera à vive allure vers la gare centrale de Dakar. Au bord des voitures se trouveront tous les dignitaires soudanais de la Fédération du Mali, le président du gouvernement fédéral malien, Modibo Keïta et son épouse, les ministres soudanais de ce même gouvernement, les 20 députés fédéraux soudanais, des hauts fonctionnaires de la nouvelle administration fédérale et leurs familles. Ils seront contraints par la force de quitter le territoire sénégalais. Un autorail spécial les emmènera aussitôt vers Bamako, leur destination finale. Radio Moscou proclamera son soutien à la défunte fédération et accusera la France. Yamé Ogo, depuis son fauteuil en Haute-Volta, se félicitera publiquement de sa clairvoyance qui lui a permis de quitter le navire à temps. L'indépendance du Sénégal sera proclamée et le général de Gaulle enverra ses félicitations chaleureuses à Senghor. Point final de l'histoire.
Vous en rêvez, mais ça se passera pas comme ça. Toutes ces trahisons...
Tout le monde trahit. Julien vous a trahi. Il trahira encore. Je les traquerai, je les trouverai et je finirai par tuer Moumier. C'est à ton tour de trahir, comme les autres. Où est Moumier?
Je suis Félix Moumier.
Fumier!
Il m'attrape violemment par le col, me traîne dehors en hurlant. Je ne peux pas respirer. Je me débats. Je ne veux pas abandonner papa. Je vois l'arme du colonel. Il hurle encore. Il tire à mes pieds. Je chante à tue-tête. Indépendance, cha-cha. Je danse. Il tire dans mes pieds, mes jambes. Je tressaute, je trépigne. Nerfs sectionnés. Danse, chante, tremble, comme Aboubacar en transe. Indépendance, cha-cha. Je n'entends déjà plus le bruit des tirs. Ça crépite sur tout mon corps, ma chair et mon sang.
Où en étais-je, ma sœur?
À l'assassinat de Xavier Omar, monsieur Hemingway.
Depuis combien de temps tapez-vous ce manuscrit pour moi, ma sœur? Depuis combien de temps Ixo est-il mort sous nos yeux?
Un peu plus de 2 semaines, monsieur Hemingway, paix à son âme.
Nous sommes intimes?
Je ne suis pas sûre de ce que vous entendez par là.
Arrêtez donc de m'appeler Monsieur Mingwe, ma sœur. Je vous en prie.
Oui.
Vous pouvez m'appeler papa, comme tous les personnages de mes romans. Ou mon père, si vous préférez.
Vous n'y pensez pas.
Je vous taquine. Appelez-moi Ernest.
D'accord, Ernest.
On y va ?
Ils avaient parcouru près d'un kilomètre à marche forcée dans la forêt, Moumier en tête.
Le bruit des balles du colonel résonna jusqu'à eux. Julien se laissa tomber sur le sol comme frappé par les tirs. Suzanne s'agenouilla à ses côtés et le serra dans ses bras. Julien étouffait de gros sanglots, persuadé que nous avions tous été abattus. Un soir, un seul, j'avais été un père pour lui. Et il avait à nouveau tout perdu. Ils reprirent leur marche et s'enfoncèrent dans la forêt. Non, attendez. Je vais laisser Ixo en vie. Ixo s'échappa, se perdit, puis rejoignit une tribu Bateke qui pratiquait depuis la guerre un culte à la gloire de Ngol, fétiche à long nez coiffé d'un képi étoilé. Dans le village trônait une case ornée d'une croix de Lorraine et abritant la nouvelle Trinité, le Christ, entouré du général et d'un ancien sous-officier, Hamsoa. Ixo dansait nu sur la place du village, un képi sur la tête. Je vous ai compris. Vive l'Afrique libre, scandait-il en rythme. Ou alors on le laisse mourir. Il me reprochait de trop travestir la vérité. Qu'en pensez-vous, ma sœur ?
Vous êtes morbide, Ernest.
C'est que je suis tout prêt de disparaître à mon tour. Ça mériterait une fervente communion de l'esprit et du corps avec vous, ma sœur.
Ernest, dans votre état.
Indépendance, tcha-tcha, dozouillé. Okitwanza cha-cha tubakidi. O table ronde cha-cha bagagne o. Onipanda cha-cha tozouye. Asireko nabako. Bayokani.
C'était Expédition Taxi Maboul de Thomas Chesson et Yves Nili. 9e épisode.
Indépendance cha-cha tozouye. Okitwanza cha-cha.
Avec Alain Fromager,
Jean-Christophe Folli,
Jean-Paul Borde,
Abel Aboualiten,
Sophie Bezard,
Manon Leroy. Musique et chant,
André Zé Djamafan,
Cora et flûte,
Simon Winze,
guitare et percussion,
Séni Sand,
bruitage,
Bertrand Amiel,
conseillère littéraire,
Emmanuel Chevalier,
équipe de réalisation,
Philippe Bredin,
Sébastien Labarre,
Louise Loubrieux,
Jean-Mathieu Zand.
Indépendance, pas gagné. Oh. Et vraiment, c'est bien comme ça.